Esprit de Justice qui, ce soir, vous propose un voyage dans le temps, de façon à voir le droit de très très haut. Et j'ai le plaisir de recevoir Tamar Herzog. Le droit est, en apparence du moins, un art essentiellement pratique. C'est pourquoi la grande majorité des juristes ont, on pourrait dire, le nez dans le guidon. Ils ont des affaires à résoudre, des dossiers à défendre, des conflits à apaiser. Même lorsqu'ils l'enseignent, les professeurs de droit demeurent tributaires des présupposés culturels dont ils n'ont pas nécessairement conscience. Tous les juristes sont par définition immergés dans un système de droit. Comment pourrait-on le leur reprocher ? Mais comment arriver à une vue de surplomb ? Comment accéder à un point de vue pour les dégager de ce bain culturel? Il faut avoir en effet sacrée audace pour embrasser d'un seul regard plusieurs millénaires d'histoire, mais c'était peut-être le prix à payer pour voir ces différences. C'est le pari que Tamar Herzog a relevé dans un ouvrage intitulé « Une brève histoire du droit en Europe, les 2500 dernières années ». Ce qui est bref, c'est le livre, c'est pas la durée considérée. Et ce livre vient d'être traduit en français aux éditions Anarchassis. Le pari est gagné parce que le livre se lit comme un roman, ce qui, il faut l'avouer, est assez rare pour les livres de droit. Et en plus d'être d'une lecture facile, ce livre est également rafraîchissant. Il détonne en effet avec une littérature juridique de plus en plus technique et spécialisée. Et encore une fois, ces mouvements du droit ne pouvaient être aperçus qu'à la condition de les regarder dans le temps très très long. C'est donc un tour de force que réalise ce livre magistral en nous offrant une grande fresque du droit en Europe. Alors on viendra sur ce terme en Europe ou dans le monde occidental parce qu'il parle également des États-Unis. Et c'est un livre à recommander aux étudiants tout d'abord, parce qu'ils vont y trouver une carte historique qui leur permettra de se situer, si je peux me risquer à cette expression. Mais il est aussi à conseiller aux juristes avertis, parce que ils y verront remis en cause nombre d'idées reçues. Ils y découvriront ce qu'ils tiennent pour le plus évident, ce qui constitue pour eux l'essence même du droit, eh bien résulte en réalité d'une construction historique millénaire. Et c'est pour ça que Esprit de Justice, pour cette dernière émission de l'année, est très heureux d'avoir pu profiter du passage à Paris de Tamar Herzog. Tamar Herzog est déjà auteur de grand nombre d'ouvrages et elle est professeure d'histoire du droit à l'université de Harvard.
France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon.
Bonsoir Tamar Herzog.
Bonsoir.
Alors, comment est-ce que vous est venue cette histoire, cette idée d'écrire une histoire aussi longue? Vous avez déjà rédigé des livres plus précis, plus techniques, sur l'Espagne notamment. Mais là, pourquoi cette vision panoramique?
En réalité, en tant qu'historien de droit, il n'y avait aucun livre d'histoire de droit que j'aimais. Il y avait beaucoup de livres que je pouvais utiliser dans mes cours à l'université ou recommander à des amis quand ils m'ont posé des questions. Il y a des très bons livres d'histoire des droits, mais normalement ils sont sur les droits nationaux. Alors il y a histoire des droits espagnols, histoire des droits français, histoire des droits italiens, comme si ces droits étaient tout à fait différents, comme les droits étaient toujours une chose nationale qui n'est pas du tout vraie historiquement. En plus, ils étaient très détaillés et avaient une attitude assez positiviste. Les droits étaient comme ça, après ils étaient comme ça, après ils étaient comme ça. C'est-à-dire, ils n'ont pas posé la question que moi, comme historien, m'intéressait plus, pourquoi c'est comme ça? Et qui fait les droits? Quand? Comment? Quel est le contexte qui donne des sens à ces solutions qu'on voit changer avec le temps? C'est-à-dire, je pense les droits comme un produit de la société. Je voulais voir comment, non simplement les solutions spécifiques ont changé pendant des siècles, mais aussi les droits mêmes, les contextes. Et quelquefois, j'ai dit, c'est un peu qu'on pensait les systèmes Windows, les operating systems, et pas assez concentré sur le document Word. Non,
c'est ça. Parce que la société, elle produit du droit, mais à lire votre livre, on a l'impression qu'elle cherche un peu à cacher sa création. Elle dit toujours, oui, ça c'est quelque chose de plus ancien, je me réfère au droit canon, je me réfère au droit romain, je me réfère aux coutumes. Et à chaque fois, les juristes veulent cacher, maquiller, en fait, ce qu'ils ont véritablement créé.
Oui, parce que c'est une moyenne de légitimiser le résultat. Mais en réalité, quand on regarde comment ça se produit, on voit très bien qu'il n'y a pas une planning majeur, que vraiment c'est quelque chose d'assez accidentel, comme le droit s'est évolué. Et c'est impossible à contrôler. Même si on rédige des lois écrites, la question à poser, c'est comment ça va être utilisé, interprété. Et alors, le droit, c'est vraiment le résultat de plusieurs forces qui combattent plusieurs éléments qui s'entremêlent. Et le résultat est vraiment, quelquefois, j'ai dit que le résultat, à la fin, c'est assez surprenant toujours.
Oui, et c'est pas ce que. Il n'y a aucune logique, aucune induction depuis l'origine.
Oui. Moi, je trouve ça, et en réalité, cette conscience m'est venue parce que moi, j'ai travaillé 3 ans comme avocat, comme procureur, et je l'avais vu dans l'expérience. Et après, je suis penchée sur l'histoire des droits, et tout d'un coup, je l'avais vu tous les temps, dans toutes les époques, ce jeu entre ce qu'on pense qu'on fait et ce qui est fait et ce que les autres font avec ce qu'on a fait, c'est toujours très complexe.
Et ça veut dire que pour vous, Tamara Herzog, il faudrait que tous les juristes, si possible, aient une expérience pratique pour saisir cette, non seulement le concret, les difficultés de la pratique, qui sont toujours au-delà de ce que imaginent les juristes, mais pour saisir aussi cette part de mythe, de croyance partagée que constitue le droit.
Oui, je pense que la pratique donne cette vision assez clairement. Mais je comprends aussi pourquoi les droits fabriquent cette image de consensus d'une chose prédéterminée. Parce qu'à la fin, pour moi, les droits, ce sont les règles qui administrent un peu les relations humaines. Et apparemment, les êtres humains veulent savoir quelles sont ces règles. Ils veulent avoir une certitude, même si cette certitude, c'est impossible d'y avoir.
Vous dites même, j'ai relevé cette expression, parce que bien sûr, elle m'a intéressé. Vous dites, le droit, c'est une méthode pour comprendre les interactions entre les personnes et ce que devraient être les conséquences de leurs actes. Et on pourrait dire, de manière un peu plus pompeuse, c'est une manière d'agir sur le monde.
Oui, tout à fait. Et je pense que vraiment, on est toujours obsédé par des luttes sociales, politiques, économiques. Mais en réalité, en tant que juriste et historien de droit, moi, je pense que la vraie lutte plus féroce, c'est sur qui fait les règles et comment sont fondées les règles. Oui. Parce que ça donne une force énorme de légitimation.
Alors, qui fait les règles à vous lire, on voit deux acteurs principaux. Et il y en a un qu'on connaît bien et les autres qu'on connaît moins bien. Vous dites, il y a les grands noms, les législateurs. C'est Barolus, c'est Justinien, c'est le Code civil, Portalis, c'est aussi Saint-Louis, etc. Bref, des législateurs. Mais rien de leur volonté n'aurait été concrétisé s'ils n'avaient été entourés de juristes. De juristes, et vous les appelez d'ailleurs, alors c'est intéressant, parce que en français ça a été traduit sous forme d'intellectuels. Vous présentez les juristes comme des intellectuels, Tamara Herzog.
Oui, parce que je pense que les intellectuels s'intéressent toujours dans les règles et je pense pas que les juristes font un groupe séparé presque. La réflexion sur les règles est beaucoup plus générale que les gens qui ont en titre un droit.
Oui. Alors, il y a des époques qui ont été très riches en juristes. À vrai dire, le droit romain se constitue par des juristes, c'est-à-dire qui créent des concepts. C'est un droit assez autoritaire. Au départ, il y a des règles qui sont recherchées de manière immémoriale dans le jus, mais c'est les juristes, les intellectuels du droit qui le conceptualisent, Tamara Herzog.
Et oui, je pense que vraiment les rôles des juristes ou des intellectuels, c'est justement de conceptualiser des choses qui se passent dans nos sociétés. Pour moi, le rôle principal, c'est regarder qu'est-ce qu'ils font les êtres humains et essayer de tirer des règles, de comprendre. C'est un peu ce qu'ils font les linguistes quand ils nous entendent parler. Ils nous disent quelles sont les règles. Mais on parle presque sans savoir quelles sont les règles. Et je trouve que les juristes, dans ce sens-là, sont un peu comme font le travail que font les gens de...
Alors, vous êtes généreuse pour les juristes, parce que la plupart des juristes, ils font des procès, ils font des contrats de vente, ils font des réalisations d'immeubles, ils préparent des constitutions, ils font des tas de choses, ils pensent pas tellement ils cherchent surtout, principalement, à faire quelque chose.
Mais c'est intéressant parce qu'en anglais, justement, pour démarquer cette distinction, on parle des lawyers quand ils sont des praticiens et des juristes quand ils sont des gens qui reflètent sur la loi. Oui, évidemment, mais c'est pas que les juristes. Quand nous sommes en train de faire les choses quotidiennes, on doit résoudre des conflits, on n'est pas nécessairement fait une grande réflexion sur tout ce qu'on fait tout le temps. Mais je pense que, à la limite, même ceux qui sont praticiens doivent de temps en temps imaginer qu'est-ce qu'ils font et pourquoi ils font et quel sens à ce qu'ils font.
Alors vous combattez une idée, vous le dites dès l'introduction, vous combattez une idée, reçue, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire que le droit est un donné qui est et que il a toujours été là. Il y a quelque chose quand on applique le droit, il y a quelque chose de fataliste, de très réaliste. Ben c'est comme ça parce que c'est comme ça. Ben non précisément.
Oui, entre autres choses parce que le droit est fait avec des mots. Et les mots sont toujours polyvalentes. Alors, il y a toujours la question comment on comprend, même les lois écrites, comment on les comprend. Et je donne dans les livres l'exemple de Magna Carta, qui vient de l'Angleterre, parce que c'est vraiment impactante. Parce que là, il y a un texte du XIIIe siècle qui est lu plusieurs fois pendant des XIIIe siècle. Jusqu'à aujourd'hui, en réalité, parce qu'il y a encore des gens qui traitent la Magna Carta comme faisant partie importante du droit anglais. Et on voit très bien que les textes restent exactement les mêmes, mais la compréhension des textes, radicalement différent dans chaque siècle, moment, selon la nécessité de la société, comment les sociétés comprennent certaines choses, certains mots. Et alors pour moi, la Magna Carta, ça m'intéresse beaucoup, n'est pas simplement parce que c'est un document très important de droit anglais, mais aussi parce que ça montre comment le droit, c'est comme sable mouvant. Les droits paraissent comme c'est toujours comme ça parce que c'est le même texte, c'est la Magna Carta, mais en réalité, ça bouge tout le temps.
Alors, sable mouvant ou quelque chose, un texte qui a besoin d'être fécondé par une époque. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots qu'est-ce qu'était la Magna Carta, la vraie, celle des historiens, celle qu'on a retrouvée au XIIIe siècle, que signifiait-elle à cette époque-là?
Alors, en origine, la Magna Carta, c'est une charte féodale qui était donnée par les rois de l'Angleterre à une groupe assez réduite des barons normands qui l'ont accompagné dans la conquête de l'Angleterre. Les rois en Angleterre, comme d'autres rois ailleurs en Europe, essayent d'avoir de plus en plus pouvoir et facultés et juridiction. Les barons se rebellent contre les rois. Et alors, les Magna Carta, vraiment, c'est une traité de paix, on pourrait dire, entre les rois et ces barons super privilégiés, dont il se limite ce qu'il va prétendre faire en Angleterre. Et ça donne des droits. C'est un document énorme, en latin évidemment, et qui donne des droits particuliers à des personnes particulières. Mais il y a trois articles qui parlent de tous les barons plutôt que d'un baron particulier. Parce que normalement, c'est les barons de machin peuvent avoir celle-ci et ça. Et c'est après les siècles suivants qu'on ignore les 85% de documents, on ignore la condition de l'époque, que c'est un traité de paix entre le roi et les barons, et on commence à les lire comme une espèce de constitution qui donne des droits à tous les Anglais. Mmh. Et on ne regarde que trois articles très très brefs de tous les textes, et on oublie tout le reste. On oublie le contexte, on oublie les significations qui étaient politiques et pas juristes et légales. Et on l'attribue une statue des constitutions de droit.
Et on en fait un mythe, en réalité.
On en fait un mythe des libertés des Anglais, tandis que les Anglais n'y apparaissent pas aucune part oui, dans les documents, ce sont tous des Normands. Et en plus, ce n'est pas de tous les Anglais, c'est des barons...
Des privilégiés, comme
des privilégiés. Dites. Et en plus, il y a toutes leurs normes. Il y a 25, 30, je ne me rappelle plus, mais c'est eux.
C'est ça. Alors, ce qui est intéressant, on va dire un mot de la common law, parce qu'il y a tellement d'idées reçues à propos de la common law, à commencer par les Anglais eux-mêmes. Ils pensent que la common law, c'est la constitution ancienne, c'est l'expression même de la société, et que c'est quelque chose d'immuable, qui a toujours existé, et dont les juges sont les porte-parole, sans les inventer. Ils découvrent les règles que sécrète la société. Et vous montrez, et beaucoup d'historiens l'ont montré, mais récemment, que c'est tout le contraire.
Oui, tout à fait. Moi, j'ai été assez bouleversée quand j'ai commencé à lire cette histoire. Et je me suis demandé pourquoi il avait autant de succès. C'est-à-dire, ce qui me fascine, ce n'est pas simplement la création des mythes, mais aussi les succès qu'ont les mythes.
Oui,
parce que non pas tous les mythes ont le même succès, mais cette mythe avait un succès énorme. Et vraiment, je me demande, mais je dois dire comment on est en France, qu'il y a un mythe très fort de droit français aussi qui m'a beaucoup...
Alors,
d'une part émue, de l'autre part bouleversée.
Alors lequel ? Allez-y.
C'est les mythes des pays des droits coutumiers, des mythes des pays des droits écrits. Parce que c'est bien sûr que les droits coutumiers étaient écrits, les droits écrits avaient des coutumes.
Et donc une fausse distinction, une distinction qui a été exagérée.
Très exagérée. En plus, la rédaction des coutumes par écrit était faite par des juristes des droits dits écrits. Alors, les coutumes qu'on connaît aujourd'hui ne sont pas... Il n'y a pas de coutumes authentiques, parce que les coutumes changent tout le temps, comme toutes les choses. Mais les coutumes, comme on les connaît aujourd'hui, ne sont pas cette chose mythique qui est créée par la communauté d'une forme autochtone qui reste authentique, pas du tout. Et alors, bien sûr, il y a des différences entre des différentes régions françaises. Il y a des droits locaux, mais ça existait partout en Europe. C'est-à-dire, les droits avant la fin du 18e et même 19e était toujours locale partout en Europe. Il y avait très peu de droits dits nationaux au général. Et en plus, les stéréotypisés comme droit romain et contre droit et coutumier, c'est pas du tout.
Alors, aujourd'hui, Tamara Herzog, il y a un grand affrontement, quoi. Il est pensé comme ça par les juristes entre la common law anglaise, qui serait exceptionnelle, atypique, extrêmement soucieuse du droit et des libertés des gens, et rendant leur agentivité aux plaideurs, et puis un droit beaucoup plus autoritaire, qui serait le droit continental, droit monarchiste, droit de la volonté du souverain. Vous trouvez que cette opposition est pertinente pour vous ?
N'est pas du tout. D'une part, les droits communs aujourd'hui, les common law, n'est pas du tout les common law comme il était 17e, 18e.
Ah oui.
Parce qu'il y a beaucoup de législations faites par les parlements. Alors, ce n'est pas du tout cette idée non plus. Mais de toute façon, ce que je trouve incroyable dans l'histoire des common law, que maintenant, on les lit comme un droit qui défend les libertés individuelles, mais en réalité, c'était un système où les plaideurs devaient aller au roi pour demander un remède. Et alors, le développement du système dépendait de l'existence d'un pleudeur qui voulait un remède, qui avait l'argent, le temps, les connaissances pour aller demander au roi, et le roi qui consentit à donner ce remède. C'est-à-dire, le développement historique n'était pas fait à partir de qu'est-ce qu'on doit faire, comment doit être la société, mais plutôt dépendait tout à fait de la agency humaine, demandait quoi.
Oui.
Alors ça couvrait pas de tout toutes les choses.
Bien sûr.
C'est-à-dire le common law originaire était surtout sur les propriété foncière et l'héritage de son qui intéressait des gens avec beaucoup d'argent.
Et de l'agency, comme vous dites, du roi.
Et de l'agency du roi.
Bien sûr. Donc en fait, loin d'être cette création spontanée et profonde, immémoriale, qui donne à l'Angleterre sa constitution ancienne, comme ils disent, c'était en fait une création toute politique. Esprit de justice qui continue sa discussion en compagnie de Tamar Herzog, qui est professeur de droit à Harvard et qui a écrit une brève histoire du droit en Europe, mais cette histoire, elle dure 2500 ans. Alors, Tamar Herzog a choisi de nous faire entendre, comme premier choix musical, cet air de Rimsky-Korsakov, Scheherazade. Pourquoi ce choix, Tamar Herzog ?
Je ne sais pas pourquoi, mais quand j'entends ça, je pense que j'ai la voix. J'ai la voix Scheherazade et ça m'arrive quelquefois, mais pas toujours. Mais je vois aussi la société à l'entour d'elle. Alors, j'imagine toute une interaction entre une personnage et les gens alentour. J'aime beaucoup. Je vois le récit. J'entends le récit très, très clairement.
Oui, c'est ça. Oui. Et finalement, ce que vous avez voulu faire sur le droit, c'est un peu la même chose. On le sent d'abord, on le lit, mais l'essentiel n'est pas dit. L'essentiel, c'est à venir. Et alors, vous écrivez donc une brève histoire du droit en Europe, les 2500 dernières années. Tamar Herzog, le droit en Europe. Le droit en Europe, aujourd'hui, c'est pas très populaire de dire le droit en Europe. Ça veut dire l'Europe comme le centre du monde. Qu'est-ce que vous pensez de l'Europe ?
De toute façon, moi, je suis européen et je pense qu'il faut qu'on comprenne d'où on vient et et pourquoi les choses sont comme elles sont. Et je pense que c'est important pour l'Europe. Mais de toute façon, je pense que je prends une position là pour dire que peut-être que je crois à l'Europe. Je sais que c'est très naïf, mais je sais qu'il y a des différences en Europe entre les pays, mais je vois aussi les longues histoires. Hein. Et je voulais vraiment montrer qu'il y a un droit en Europe. Et ce que dans le livre, ce que je décrive, ce sont des processus qui avaient lieu partout en Europe. Dans quelques domaines, un droit, c'était chronologiquement dans un moment différent ou peut-être intensité différente. Mais tous ces processus vraiment se passent partout en Europe. Et je prends qu'un exemple dans les livres divers pays, dépendant de où il y a vraiment, parce que ça dépendait aussi de la littérature qui existait déjà pour des choses qui étaient étudiées. Évidemment, pour couvrir 2500 ans, ça pouvait pas être que ma propre recherche. Et je prends des exemples des différents pays, mais quand je parle d'un pays, en réalité, je dis que c'est partout ça. En Europe.
Mais y compris, vous incluez l'Angleterre dedans.
Tout à fait, parce que si on voit cette longue histoire, on voit très bien que le développement des droits en Angleterre n'est pas différent. Il y a un moment où c'est différent, il y a un moment que non, mais c'est vrai par toute l'Europe. Qu'il y a un moment où il y a plus de divergences, moins de divergences. Mais je vraiment vois comment les droits anglais se nourrissent. Et je sais, pour les Anglais, c'est choquant. Mais des droits romains. Oui. Parce que s'il y a un droit dans l'époque moderne qui est similaire un peu au droit classique romain, c'est l'Angleterre, c'est pas l'Europe. Je trouve. Ah oui. C'est les vrais héritiers de droits romains, beaucoup plus que l'européen, que... On dit qu'il utilise le droit romain, mais après, ils l'ont utilisé d'une manière intéressée, comme les Anglais ont fait avec les Magna Carta. Alors, je crois à l'Europe, je crois qu'il y a une histoire commune des droits en Europe. Et même quand on passe à la fin du 18e, au début du 19e, à cette idée de droit national, ça commence avec la Révolution française, mais après, c'est partout. Et même ça, toute l'Europe passe à une idée de droit national ensemble. Oui. Et maintenant, tout le monde en Europe se demande sur le droit national. Alors même quand on s'est divisé, c'est uni.
Voilà. Vous dites l'Europe, c'est plus une idée qu'un continent. Tamar Herzog, plus une idée qu'un continent. On pourrait se demander si cette idée, c'est le droit. Mais moi, je pense que plus profondément, c'est ce que dit d'ailleurs un historien russe, Gourevitch, ce qui caractérise l'Europe, c'est que le droit reste la source principale de légitimité. Il faut toujours qu'il y ait un droit avant, qui soit divin, qui soit traditionnel, comme les actions de la loi. On ne retrouve pas du tout ça en Chine, où en Chine, au contraire, chaque dynastie recommence tout à zéro. Non, en Europe, il faut s'autoriser du droit.
Oui, en réalité, je ne connais pas les autres droits, alors je ne pourrais pas dire si c'est comme ça ou non ailleurs, mais en Europe... C'est vrai que on cherche toujours légitimiser ce qu'on fait par bias de la loi. Et j'étais à Toulouse ce week-end pour l'Histoire à l'avenir, ce festival. Et j'ai, répondant à une question posée pour la public, je les ai dit, à la fin, je trouve incroyable que même les tyrans les plus atroces qui font des choses les plus terribles en Europe, toujours les justifient avec les lois. Il utilise les lois pour le faire. Il pouvait dire, moi j'ai la force, j'ai la brutalité, je le fais parce que j'en vis.
Vous pensez au procès politique, par exemple, au procès stalinien?
Oui, mais je pense aussi à Hitler. Toutes les horreurs qu'Hitler a faites étaient légalisées. Il pouvait dire, moi je suis vainqueur, je fais ce que je veux, mais non, il a fait tout avec des règles et législation. Mais je dis que c'est une idée, c'est pas un continent, parce que on sait très bien que géographiquement,
non,
ce n'est pas un continent en plus.
Bien sûr, c'est la péninsule asiatique.
Exact. Alors ça, c'est d'un côté, mais de l'autre côté, quand j'essaye d'expliquer comment le droit a développé en Europe, je commence avec une monde méditerranée. C'était pas l'Europe. L'Europe n'existait pas. Alors les droits romains, c'est un droit de Méditerranée où des parties d'Afrique et d'Asie font partie de ce monde. Après, ça continue avec la conversion au christianisme. De nouveau, ce n'est pas une affaire européenne, c'est une affaire qui est dans la Méditerranée. Mais après, et il y a beaucoup des explications pourquoi ça devient... apparaît cette idée de l'Europe, et on regarde aussi au centre d'Europe, au nord, au est. Mais là, il y a un moment aussi que je traite dans le livre, qui est le moment colonial, où ces droits européens est exporté hors du continent. Et pour moi, ce continent, c'est intéressant parce que il y a beaucoup de choses qui se passent hors d'Europe avec les droits européens, mais après, ça revient en Europe et ça a une énorme influence en Europe.
Et donc, ces interactions, c'est un peu l'idée de Rémi Braque quand il dit l'Europe, ce qui caractérise l'Europe, c'est d'être exocentré. C'est que finalement, ces deux centres de gravité sont en dehors d'elles-mêmes, à Jérusalem et puis à Rome. Alors bon, ça c'est pas... Mais c'est-à-dire qu'elle recherche toujours à l'extérieur d'elle-même son centre de gravité. Alors, ça passe beaucoup par les colonies, mais dès le départ, dès l'édit de Caracalla en 212 après Jésus-Christ, il y avait une différence majeure entre le droit romain et le droit pérégrin pour ceux qui n'étaient pas citoyens romains. C'est déjà une ouverture et qui va changer profondément le droit romain.
Tout à fait. Je pense qu'en Europe, il y a toujours la réflexion. On dit toujours que la loi est faite pour une communauté, mais qu'est-ce que c'est une communauté? Est-ce que la communauté, c'est une communauté politique? C'est une communauté de la maison, le pater familias? C'est une communauté religieuse? C'est-à-dire, il y a toujours cette idée, et en Europe, on passe à certains moments cette idée que c'est pour que les lois sera pour tous ceux qui sont prêts à obéir. C'est-à-dire, on ouvre la communauté, et ce n'est pas nécessaire. C'est-à-dire, il y a là une action intellectuelle de dire ces droits qui avant étaient que pour nous pouvaient être pour des autres. Et je l'appelle dans le livre la universalisation des droits européens. Non pas parce que ça devienne vraiment universel, mais plutôt parce qu'en Europe, il y a cet effort et c'est pas évident. On pourrait dire les droits, c'est à nous et on ne veut pas ni exporter ni s'intéresser à des autres. Mais non, on dit le droit, notre droit pouvait être universel et pouvait être appliqué à d'autres gens.
C'est ça. Et alors, ça amène une sorte de ruse de la raison qu'on retrouve à plusieurs moments de votre livre, Tamar Herzog. Ce que vous dites, on propose aux autres d'obéir. Alors, on pourrait dire, ça y est, c'est une théorie de la domination et l'Europe va imposer sa loi, ce qui est aujourd'hui une idée qui travaille beaucoup le débat public et le débat intellectuel. Et vous montrez, mais avec beaucoup d'exemples, que, en fait, c'est plus compliqué que ça. Il y a une sorte de ruse de la raison, c'est que en obéissant, en proposant d'obéir, on inclut également et on reconnaît des droits et on va inventer d'ailleurs, on va étendre le droit. Ça a été d'abord le jus gentium, le droit des gens, et puis après l'invention du droit naturel.
Oui, tout à fait. Et ça qui se fait, c'est vraiment, ça a une énorme influence en Europe. C'est-à-dire, on n'impose pas les droits européens, point, stop. Et plutôt, les droits européens se développent aussi à cause de ces contacts avec des autres populations. Et c'est vrai, ça commence déjà avec les droits romains. Au moment qu'on dit les droits romains, c'est pour... on dit toujours le droit romain, c'est les citoyens romains. Mais ce qu'on change, c'est la définition des citoyens romains. Avant, c'était de la ville, maintenant, c'est tout l'Empire, c'est des citoyens romains. Qu'est-ce qui se passe comme résultat, par exemple? Il y a une énorme influence hellénique.
Oui, grecque. Ouais.
Grecque, dans les droits romains, à partir de là, parce qu'il y a beaucoup de territoires où avant, et c'est pratiqué les droits grecs. Alors, au lieu d'annuler. Ce que les droits romains fait, c'est superimposer sur le droit existant local, et alors adhère, et on sait qu'il y a énormément d'influence.
Bien sûr. À commencer par la langue, c'est que le droit va s'exprimer en grec et non plus en latin. Ce qui n'est pas une mince affaire.
Mais en général, il y a aussi des notions qui viennent de mon grec qui influent le droit romain, et c'est toujours comme ça. On le voit aussi dans les colonies,
Oui, alors on va revenir sur les colonies, parce que cette rétroaction, c'est quand même aussi un message positif à dire aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui nous revient des colonies, ou des ex-colonies, dans l'histoire du droit très très longue, ça a toujours enrichi, en réalité, le droit, ça l'a transformé et ça l'a poussé plus loin, on pourrait dire.
Et tout à fait. Moi, je sais depuis longtemps qu'on avait identifié une penseur espagnole, Francisco Vitoria, comme un des pères des droits internationaux. Mais Francisco Vitoria n'avait aucun intérêt au droit international, évidemment. Ce qu'il a pensé, et sa réflexion était alentour de la question est-ce qu'on a le droit d'imposer un droit européen sur le monde colonial? Et sa réponse était ce n'est pas un droit européen, c'est un droit universel, c'est le droit naturel. Alors on peut contester, et évidemment c'était le droit européen, ce n'était pas droit universel ni droit naturel. Ils comprenaient droit universel et naturel selon leur compréhension à eux, alors droit européen. Mais là, il y a une forme énorme de dire c'est quelque chose commun à tous, ou au moment qu'il dit c'est quelque chose commun à tous, alors les agents de changement peuvent être aussi dans la colonie.
C'est ça. Et on peut dire que Victoria est le début d'un mouvement qui va continuer dans les droits de l'homme, c'est-à-dire dans l'idée que chaque homme a des droits inaliénables attachés à lui. Alors, ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps, mais c'est né à cette occasion. Vous dites la même chose aussi, ça m'a beaucoup surpris, sur la féodalité. Parce que la féodalité, c'est une très mauvaise image comme étant l'archaïsme, quand on veut. C'est même en français quand on dit, mais c'est féodal. C'est moyenâgeux, ça veut dire c'est vraiment le summum de l'obscurantisme. Et vous dites, en réalité, à travers le lien de vassalité, de suzerain à vassal, en réalité, il y avait quelque chose lors du contrat, d'un échange de légitimité.
Oui, alors ce qu'ont dit les historiens aujourd'hui, bien sûr, c'est ce que les juristes ont tiré du droit féodal. Et ce qu'il voulait voir, justement, c'était des juristes italiens qui travaillaient dans la ville italienne au 12e, 3e, qui voulaient trouver une espèce de contrat social sur la base de la société. Ils l'ont trouvé dans le droit féodal en regardant ces relations, en disant ces relations féodales sont réciproques, hautement
inégal, asymétrique, oui.
Asymétrique, mais de toute façon, il y avait un échange de services, et cet échange était essentiel. Ici, soit les vassals, soit les seigneurs ne faisaient pas son part, sa part, le pacte est brisé. Pour ces juristes, c'était très important, parce que comme ça, ils pouvaient, ils utilisaient ces discours pour stopper les gouvernements, parler sur ce que les seigneurs pouvaient et ne pouvaient pas faire. Je ne dis pas que c'était la réalité, pas du tout, mais les juristes prennent la réalité féodale et sur cela, ils se basent toute cette idée des contrats sociaux qui deviennent mythiques. Même aujourd'hui, on pense qu'on vit dans un contrat.
Mythique n'est pas forcément un gros mot pour le droit, Tamar Herzog. Oui. Le mythe fait partie du droit, en réalité. C'est une des conclusions que j'ai retirées personnellement de la lecture de votre livre. C'est-à-dire que le droit, et c'est important pour des juristes, le droit, bien sûr, c'est une technique, ça procure de la légitimité, mais dans cette légitimité entre une part de mythe qu'on ne voit que de loin ou qu'on ne voit qu'a posteriori.
Oui, parce que si on voudrait dire, on pourrait dire, même aujourd'hui, on dit qu'il y a un contrat social entre nous et le gouvernement, mais on pouvait aussi se poser des questions. Est-ce qu'il y a un contrat social? Qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, ce n'est pas évident aujourd'hui non plus. Mais je pense que c'est ça que les droits font. Les juristes regardent le passé. Ils en tirent ce qui est important pour le présent. Oui. Les juristes font quelque chose, j'aime beaucoup en anglais, on dit « usable past ».
Usable past.
Oui, ils regardent le passé. Oui, ils ne regardent tout. Ils regardent quelles choses qui les peuvent intéresser, être utiles. Ils les donnent les significations qui est intéressant pour eux aujourd'hui. Et sur la base de ça, il dit c'était dans le passé, mais c'est pas tout vrai. C'était la partie du passé qui les intéresse à eux avec l'interprétation d'aujourd'hui. Et c'était toujours comme ça.
On va parler du usable past des Français, qui est bien sûr la Révolution. Alors ça, c'est un mythe qui fonctionne en France, qui fonctionne toujours et qui est extrêmement vitalisant d'ailleurs pour la vie politique française. Même si parfois il y a des excès, c'est bien le mythe révolutionnaire. C'est le mythe d'une révolution qui est capable de faire tabula rasa. Ça, c'était quelque chose de nouveau dans la Révolution française.
Oui, tout à fait. La Révolution française, pour moi, c'est vraiment le début de la modernité légale. ce où on trouve par première fois formulé légalement, parce qu'il y avait des intellectuels qui ont parlé de ça avant, mais c'est la première fois qu'on dit la loi, c'est la tâche du droit, ce n'est pas de maintenir le status quo, maintenir la paix, ce qui était la tâche du droit avant, mais plutôt d'améliorer la société. Et avec ça, on prend la liberté de faire des règles nouvelles. Et la seule condition, que ça soit raisonnable, ça soit pas contradictoire au droit naturel. Alors, il y a cette idée que les droits peut partir de zéro et que c'est l'être humain qui le fait. Il n'y a pas ni Dieu, ni tradition, ni rien. Mais bien sûr, c'était un mythe parce que ce n'était pas du tout possible, parce qu'il y avait trop des intérêts en jeu. C'est-à-dire, il y a un mythe des ruptures et une réalité des ruptures et des continuités.
Mais par exemple, cette idée qui aujourd'hui est évidente pour tous les Français, et je crois pour beaucoup d'autres que les Français, cette idée qu'on améliore le monde, on change la réalité par des lois.
Ouais.
Donc le droit n'est pas un instrument de reproduction d'un passé figé qui enferme l'action, ce qui était le cas pendant longtemps. Le droit est un instrument de changement, la loi est un instrument de changement. Mais ça, c'est une idée très récente dans l'histoire du droit.
Et tout à fait, entre autres, parce que je pense qu'avant 18e, il y aura trop peu de gens qui auraient osé de penser qu'eux, ils savent mieux que Dieu, ils savent mieux que la communauté, et ils savent mieux que la tradition, et ils peuvent proposer quelque chose de neuf qui soit mieux. C'est-à-dire, c'est vraiment une idée radicale qui apparaît avec 18e, peut-être fin de 17e. Et une des choses que j'ai pas du tout pensé avant d'écrire ce livre, c'est le pouvoir qu'a cette idée des vérités unquestionnable, evident truth, self-evident truth.
La vérité éclatante, la vérité qui...
Évidente. Et cet instrument qu'utilisent tous les révolutionnaires au 18e, les Américains, ici en Europe, les Français, mais d'autres aussi. Et quand on pense vraiment, qu'est-ce que ça veut dire, vérité qui est évident, ça veut dire, ça a des sens pour moi. C'est moi qui décide, je suis raisonnable, moi je comprends comme ça.
C'est ça.
Mais on voit après dans la Révolution française, pour moi la grande lutte de la Révolution française, c'était que tout était d'accord qu'il faut améliorer la société, tout était d'accord que c'est self-evident, mais ils n'étaient pas du tout d'accord qu'est-ce que ça veut dire. Ce qui était self-evident pour un n'était pas pour l'autre.
France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon.
Esprit de justice qui continue cette conversation avec Tamara Herzog, professeure de droit, d'histoire du droit à Harvard et qui a écrit une brève histoire du droit en Europe et qui a choisi de nous faire entendre son deuxième choix musical, le début de la première symphonie de Mahler qui était interprétée ici par Leonard Bernstein et le Concertgebouw d'Amsterdam. Pourquoi ce choix, Tamara Herzog?
C'est un moment où tout commence à se réveiller et j'attends là la potentialité du moment. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a l'expectative, non? Et en plus, je me rappelle quand je l'avais entendu, j'avais 10, 12 ans pour la première fois. C'est la première fois que j'ai vraiment entendu de la musique, que ça m'a été sans entrée dans mon esprit plutôt qu'être une chose qui passe près de mon oreille. Mais j'aime beaucoup cette idée de potentialité. Je dis toujours aux mes étudiants que j'aime plus la question que les réponses.
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et on pourrait dire la fameuse phrase, toutes les réponses sont dans le Talmud, mais où sont les questions? Et en fait, c'est ça le rôle de l'intellectuel, c'est retrouver les questions. Alors, je pensais en vous lisant aussi à une phrase de Diderot dans Le Neveu de Rameau où il fait dire, ah, monsieur, vous parlez d'une hauteur où tout se ressemble. Une hauteur où tout se ressemble. Quand on voit les choses de très haut, on ne voit plus rien, dit Diderot. Et en fait, vous lui apportez un démenti, parce qu'on a l'impression, à vous lire, que c'est précisément parce que vous avez pris cette hauteur de vue, 2500 ans, en 350 pages, que vous avez pu voir, Tamara Herzog, des différences et une progression assez saisissante du droit.
Oui, je crois que, en général, je crois que les longues durées, c'est assez difficile de faire, mais vraiment nous donne une impression tout à fait différente que si on regarde un cas spécifique, une époque spécifique. Si est-ce que, ça dépend des questions qu'on se pose, mais la question que moi je voulais se poser, c'est comment les choses se sont passées en Europe pour qu'on aboutisse au ce qu'on a aujourd'hui. Il fallait vraiment les regarder à la longue durée, mais il fallait aussi les regarder un peu sans être restreint un espace national, entre autres parce que cet espace national n'avait aucune importance presque légale jusqu'à 18e. On tend à oublier ça.
Oui, c'est ça.
Alors, oui.
Oui, mais ça veut dire que c'est intéressant, c'est ça la nouveauté de ce livre. D'ailleurs, pour moi, c'est que le droit comparé, c'est on cherche par une comparaison dans l'espace entre deux systèmes de droit, à travers les différences, de mieux les comprendre. Mais vous cherchez cet écart non pas dans l'espace, mais dans le temps, dans un temps très 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 long, qui permet de faire apparaître des récurrences, des choses qui reviennent, et notamment vous montrer. Ça aussi, c'est important de le rappeler, c'est que le droit national est toujours le produit et en même temps, il est toujours bousculé par les migrations. Par l'immigration, les gens bougent, les pérégrins viennent à Rome, les barbares viennent à Rome, les gens du nord descendent vers le sud. Dans la longue histoire, on est saisi de l'importance de ces migrations, Tamara Herzog.
Et tout à fait. Je pense que ce qu'est dans la longue durée qu'on peut comprendre les choses presque. Parce que si on pense que les droits, c'est ces sables mouvants, si vous regardez les sables mouvants pendant une demi-heure, il n'y a pas eu de changement. Mais si vous avez un caméra sur les sables mouvants pendant des années, vous voyez très bien que ça bouge, parce que les mouvements sont petits. Ça, presque, on pourrait dire le même pour l'évolution humaine. C'est-à-dire, si on regarde les dernières 100 ans, les humains étaient toujours comme ils étaient, plus ou moins. Peut-être la hauteur, mais pas des choses très grandes. Mais si on les regarde avec beaucoup plus longue durée, on voit que ça change. Alors, je pense que pour comprendre le droit, il faut faire cette longue durée et il faut les regarder un peu d'en haut et pas...
Le regarder d'en haut et en même temps pas tomber dans le piège dans lequel tombent les juristes, mais encore une fois, c'est pas du tout une critique, c'est plutôt un constat, parce qu'ils sont dans un système, ils appartiennent à une fac de droit allemande, française, italienne, américaine, ô combien. Et donc, on le voit très bien aujourd'hui pour les États-Unis, c'est-à-dire que les Américains ne peuvent penser qu'à partir du premier amendement, qui est l'alpha et l'oméga des rapports entre droit et religion. Et c'est très difficile pour eux de penser le rapport avec la religion en dehors du premier amendement. Et donc...
Oui, mais ils devraient. Parce qu'à la fin, le premier amendement ne dit rien. Oui, c'est-à-dire, on les lit et ce ne dit pas de tout ce que les juges ont dit que ça dit.
C'est ça.
Et les juges qui décident qu'est-ce que ça, comment faire l'interprétation de cette clause regardent les États-Unis, regardent les cas antérieurs, mais normalement, ils doivent lire aussi qu'est-ce qui se passe en Europe. Même aujourd'hui, je pense que cette idée que le droit national est fausse, parce que les juristes lisent ce qui se passe ailleurs, les juges lisent ce qui se passe ailleurs. En plus, il y a les droits internationaux, il y a les droits des grandes corporations internationales qui s'imposent leurs propres règles. En Europe, il y a les droits européens aussi. C'est-à-dire, même aujourd'hui, si on veut changer les lois, normalement, les commissions qui sont chargées de ça regardent partout et essayent de voir quelle était la solution dans un autre pays pour trouver les solutions mieux. C'est-à-dire, même aujourd'hui, avec un système national, c'est pas du tout vrai.
Oui, surtout en Europe, où on a le droit européen. Vous dites, le droit européen, c'est un peu comme le système d'exploitation Windows. C'est-à-dire, on le voit pas beaucoup, mais en fait, il irrigue, il structure et il restructure tous les droits du continent européen.
Oui. Moi, avec les étudiants, par exemple, cette année, on va regarder un peu le droit à l'oubli d'où Internet. Et là, on voit très bien, il y a une jurisprudence européenne, il y a législation européenne, mais ces débats sont partout. C'est-à-dire, je trouvais des discussions par dizaines d'autres pays et c'est tout connecté, c'est pas séparé.
Mais alors justement, parlons de droit à l'oubli, donc du numérique, parce que on pourrait dire ce que vous décrivez, c'est comme ça que je le résumerais, c'est un peu une revanche de la géographie et sur l'histoire, dans le sens où les sociétés sur l'histoire, parce que on va vers un droit qui est à chaque fois plus qui se dégage de la légitimité historique pour aller vers un droit qui est créé, qui est engendré par les hommes, par la volonté générale. Mais aujourd'hui, on assiste à une nouvelle rupture, Tamar Herzog. Et peut-être que dans 2500 ans, les historiens qui feront l'histoire sur 5000 ans cette fois-ci, découvriront qu'on est dans une rupture fondamentale. Et je voudrais vous interroger, il y a un de vos collègues à Harvard, Lawrence Lessig, a dit « Code is law ». Maintenant, c'est le code qui fait le droit. Et cette formule saisissante, extraordinaire, elle est bouleversante aussi parce que ça veut dire que c'est plus les dieux qu'on fait le droit, c'est plus Dieu, c'est plus l'histoire, l'école historique allemande, c'est plus la volonté générale. Non, le droit est fait par la technique.
Je pense qu'il a raison de nous tirer l'attention sur ça parce que, de nouveau, l'informatique, pour plusieurs gens, c'est quelque chose de technique qui aide à faire des choses qu'on voudrait faire. Et on ne comprend pas comment ça conditionne ce qui se passe. Alors là, tout à fait, il a raison. Mais je ne pense pas qu'on est déjà là. Peut-être on irait là. Mais je pense qu'au moment, c'est beaucoup plus complexe que ça.
Mais est-ce qu'on peut, on ira, mais alors, vous semblez donner la réponse dans votre livre déjà par avance. Ça veut dire que la technique serait un droit sans mythe, serait un droit qui n'aurait pas besoin de s'appuyer sur une représentation collective d'où on vient et d'où on a envie d'aller. Ce qui est le propre, ce qui est permanent de toutes les sociétés que vous avez étudiées et comparées, Tamar Herzog. Ça, c'est pas possible de vivre sans mythe.
Oui, et en plus, je ne peux pas m'imaginer un système juridique nouveau où vraiment il y aura toujours des réponses égales à situations égales, parce qu'il n'y a pas de situation légale. Parce que cette idée, c'est-à-dire l'égalité, c'est un horizon qu'on aimerait y arriver, mais on sait très bien que les gens sont dissimilaires. Et au moment qu'ils sont dissimilaires, les circonstances, ils sont... c'est impossible d'appliquer la même solution à des gens différents, des circonstances différentes. Alors, je pense que c'est la Révolution française qui a commencé avec cette idée une loi simple, logique, claire à tout le monde, sécurité, clarté. Mais je pense que la Révolution française a échoué de faire ça, mais je pense que le numérique va aussi.
Va aussi échouer. Ouais. Et puis, parce que ça va, il y a aussi une autre difficulté qui nous ramène au début de votre livre, et qui nous ramène au début de l'humanité, et qui nous ramène un peu à l'archaïque en nous, c'est le contrôle de la violence. Dans le fond, ce qui revient très souvent de votre livre, dès le départ du droit romain, le grand souci des juristes et des actions rituelles, des actions de la loi, c'est d'apaiser les conflits, c'est de réduire la violence, Tamara Herzog.
Oui, à la limite, on peut dire que toute l'invention de juridiction et de la loi, c'était pour donner des mécanismes autres que la violence. Et la justification du gouvernement était toujours de maintenir la paix. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est maintenir le status quo, parce que normalement, pour maintenir la paix, il faut donner, et la définition classique de la justice, il faut donner à chacun ce qui est dû, ce qui doit être à elle ou à lui. Et c'est pour ça qu'il y avait cette mythe de continuité légale. Parce que si on fait une révolution, c'est bien au contraire que la paix.
Oui, bien sûr. Alors, c'est intéressant, parmi les mille choses passionnantes qu'on trouve dans votre dans ce livre, on a, par exemple, je reviens, alors on est au VIe siècle après Jésus-Christ, donc il y a un certain temps, et Rogerius définit la justice, et la justice comme le désir constant et perpétuel de rendre à chacun son dû.
Ouais.
Alors ça, c'est extraordinaire comme définition. C'est une définition qui reste toujours aussi vivante et aussi puissante, d'ailleurs, à Tamara Herzog.
Oui, c'est la définition, en réalité, déjà des droits classiques. Et ce que Rogerius fait, c'est interprété. Et pour lui, c'est très important que c'est le désir. Hein, parce qu'il dit déjà là, ça, c'est pas possible de donner à chacun. Mais il faut avoir le désir.
C'est l'intention qui naît.
Oui, mais c'est l'intention. Et alors là, je pense que c'est la même idée qu'on a aujourd'hui. On voudra arriver à une égalité, à un monde en paix, mais au moins, il faut désirer, si c'est impossible
ça. C'est ça. Il dit autre chose, d'ailleurs, qui est extraordinaire et qui est toujours très vrai aujourd'hui, où il dit, dans les fameuses institutes, il dit « La justice repose sur trois commandements. Vivre honnêtement, ne pas léser autrui, rendre à chacun son dû. » Rapport à soi, rapport aux autres, rapport aux institutions.
Ouais.
C'est formidable de voir comment... Et aujourd'hui, on redécouvre l'importance de la justice dans le rapport à soi, à travers le combat des femmes, à travers la justice restaurative, à travers une justice qui s'intéresse pas uniquement à la distribution des biens matériels, mais qui s'intéresse aussi, qui a compris que la justice, c'est aussi une dimension du sujet.
Tout à fait, je suis d'accord. Et je pense que dans l'histoire européenne, on voit très bien que c'est une préoccupation très grande, hein, en réalité. Beaucoup plus grande que la préoccupation pour la vie matérielle,
oui,
presque.
C'est ça. Et ben, autant de vérités que les lecteurs pourront retrouver dans votre livre, Tamara Herzog, une brève histoire du droit en Europe, les 2500 dernières années. Et votre prochain livre sera les 2500 premières années, Tamara Herzog.
Non, je pense pas. Une des choses que je peux faire comme prof universitaire, c'est changer de thème tout le temps. Alors, j'ai fait ça parce que ça m'amuse.
Eh ben, c'est formidable. Et merci pour le bonheur que vous nous avez donné. Esprit de justice est terminé. Ce soir, à la réalisation, il y avait Sam Bacast, à la technique Valentin Bobinet, à la préparation de cette émission, Caroline Boulet-Gozzi, Sandrine Chaperon. Une émission d'Antoine Garapon.